Chapitre 23. Smoking Gun. Loi numéro 2. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. Robert Greene. 1.
Une partie à $20, monsieur ?
La proposition émanait d'un SDF à la barbe fournie qui portait une boîte de jeu sous le bras. Une autre fois, volontiers. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, dis-je en lui tendant un billet. Assis à une table en pierre, j'attendais Zora Zorkin dans le coin de Washington Square Park, dévolu aux joueurs d'échecs. Il était déjà tard, mais le parc était encore en pleine effervescence. Celle, vive et joyeuse, des samedis soirs d'été, lorsque le jour n'en finit pas de jouer les prolongations, que l'air est propice à la musique, à la flânerie, aux éclats de rire et aux tours de valse. Une atmosphère à l'opposé de mon état d'esprit. Je n'allais pas bien, Claire. Ces trois derniers jours, pour ne pas devenir dingue, j'avais réussi à refouler mon angoisse. Mais au milieu de tous ces gens insouciants, ma peur pour toi refaisait surface. Dès que je cessais d'agir ou de réfléchir, je revoyais les images de la caméra de surveillance, celle où le sbire d'Angeli te jetait dans le coffre de son corbillard chromé, celle où tu hurlais mon prénom. Raphaël, aide-moi, Raphaël, aide-moi. Dans quel état te trouvais-tu, après 3 jours de captivité? Et cette vie que tu portais, est-ce que nous aurions la chance de fêter la naissance de notre enfant? Étais-tu seulement encore en vie? Jusqu'à présent, je n'en avais jamais douté. Mais cela ressemblait plus à une profession de foi qu'à une conviction étayée par des preuves solides. Sans doute tenait-elle davantage à la fuite en avant d'un homme qui redoute de ne pas être assez fort pour accepter la réalité. Ce qui, après tout, n'est pas loin d'être le propre du romancier. Je me le répétais en boucle, tu ne pouvais pas avoir disparu pour toujours, ni de ce monde, ni de ma vie. Ces dernières heures, pour conjurer ma peur, je n'avais pas ménagé ma peine. Moi qui d'ordinaire n'agissais qu'à travers les héros de mes romans, je m'étais transformé en véritable enquêteur. J'avais découvert les arcanes de ton passé, remonté toutes les pistes, ouvert toutes les portes. C'est moi qui ai fait ça. Est-ce que tu m'aimes encore, Raphaël? Que pourrais-je te reprocher, Claire? D'avoir sauvé ta peau? D'avoir tenté de refaire ta vie et essayer de laisser derrière toi toutes les horreurs que tu avais vécues? Non, bien sûr. Au contraire, j'étais impressionné par ta force de caractère, ta détermination et ton intelligence. Est-ce que tu m'aimes encore, Raphaël? J'arrivais au bout de ma route. J'étais presque certain d'avoir identifié le commanditaire de ton enlèvement. Zora Zorkin, la femme qui était sans doute également l'assassin de ta mère. Mais je ne comprenais pas comment ces gens avaient fini par te retrouver après toutes ces années. Pourquoi maintenant? Pourquoi si vite après que tu m'avais révélé ton secret? J'avais beau envisager toutes les hypothèses, quelque chose d'essentiel m'échappait. Est-ce que tu m'aimes encore, Raphaël? Cesse de me poser cette question, Claire. Oui, je t'aime. Mais je ne sais plus qui j'aime. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître et je ne te connais plus. À présent, j'ai l'impression d'être face à deux personnes. D'un côté, Anna Baker, l'interne en médecine dont je suis tombé amoureux, chaleureuse, drôle, une belle âme auprès de laquelle j'ai passé les 6 mois les plus heureux de ma vie, la femme que je m'apprêtais à épouser. De l'autre côté, Claire Carlyle, la survivante résiliente de l'enfer de Kiefer, la fille de Brooklyn à l'ascendance mystérieuse. Envers cette presque inconnue, j'éprouve de l'admiration et de la fascination. Mais je n'arrive pas à superposer vos deux silhouettes. Qui seras-tu si nous nous retrouvons? J'ai toujours pensé que surmonter ensemble une épreuve fondatrice liait à jamais les gens et les couples encore plus. Franchir sans se déchirer une série d'obstacles douloureux crée des attachements solides, presque indestructibles. De ce point de vue-là, une chose est certaine. Maintenant que je connais ton passé, maintenant que j'ai démasqué ceux qui t'ont fait du mal, nous ne serons plus jamais des étrangers l'un pour l'autre. 2. Agile et menue, Zora Zorkin se faufila à travers la foule massée sur les gradins du Madison Square Garden. Grâce à son badge, elle gagna les coulisses et parcourut plusieurs centaines de mètres dans un dédale de couloirs jusqu'à une porte coupe-feu gardée par 2 militaires qui donnait sur la 31e rue. Blunt l'attendait. Sur son téléphone, le garde du corps montra à sa nièce le point bleu qui clignotait sur le logiciel de géolocalisation. Raphaël Barthélémy n'a pas bougé depuis 10 minutes. Où est-il exactement ? À l'angle nord-ouest de Washington Square, près des tables d'échecs. Zora hocha la tête. Le symbole était clair. On la défiait sur son propre terrain. Généralement, elle savait éteindre les incendies et elle aimait les combats. Mais elle avait pour règle de ne jamais sous-estimer son adversaire. Elle demanda à Blunt de la suivre à distance et traversa la rue pour rejoindre la 7e avenue. Tout le quartier était bouclé. Inutile de chercher à prendre une voiture. Elle n'irait pas plus vite et surtout, elle risquait de se faire repérer par un journaliste. Elle s'arrêta une minute pour acheter une bouteille d'eau à un vendeur ambulant. Là, elle connecta un casque audio à son téléphone pour suivre à la radio le discours d'investiture de Copeland dont elle n'avait pu voir que le début. Le discours était la cerise sur le gâteau, concluant une séquence de 3 jours qui, grâce à elle, s'était déroulée sans anicroche. Le triomphe de Copeland, c'était aussi et surtout le sien. Tous les analystes politiques le savaient et Tad lui-même le reconnaissait. Elle lui avait fait gagner les élections primaires et demain, elle le porterait jusqu'à la Maison-Blanche. Les autres candidats employaient des équipes pléthoriques composées de centaines de personnes, des conseillers en stratégie politique, des sondeurs, des spin doctors, des spécialistes du marketing. Copeland et elle fonctionnaient à l'ancienne, en binôme, comme une petite entreprise artisanale. À elle, la stratégie, à lui, les discours et la représentation. Cette formule s'était révélée gagnante, car chacun savait qu'il n'était rien sans l'autre. Elle avait conseillé à Copeland de se déclarer très tard aux primaires et de feindre de n'y aller que pour faire de la figuration. Le gouverneur avait laissé les favoris s'entretuer dans les premiers débats, restant en embuscade et ne dévoilant son jeu que progressivement. C'était une drôle d'époque. Une époque qui manquait d'hommes d'État. Une époque où les discours intelligents et les raisonnements complexes n'avaient plus leur place. Une époque où seuls les propos simplistes et excessifs réussissaient à trouver un écho médiatique. Une époque où la vérité n'avait plus d'importance, où les émotions faciles avaient supplanté la raison, où seul comptait l'image et la communication. Si aujourd'hui Copeland apparaissait comme un homme neuf, les premiers mois de sa campagne pour les primaires avaient été catastrophiques. Tad avait perdu les premiers caucus et s'était fait distancer lors du Super Tuesday. Puis il y avait eu cet état de grâce, comme un alignement d'étoiles dans le ciel. Les prétendus défauts de Copeland avaient soudain été perçus comme des qualités. Son discours était devenu audible dans l'opinion, et l'électorat républicain en avait eu subitement assez d'être représenté par des candidats caricaturaux. Ce jeu de domino, Zora l'avait patiemment orchestré. Et en quelques jours, Copeland avait récupéré les soutiens financiers et les voix de ceux qui se retiraient. Malgré cet élan nouveau, le combat avait été âpre jusqu'au dernier moment. Dans les premières heures de la convention, elle avait même redouté un coup fourré de ses adversaires. Pendant un instant, elle avait cru que les 130 superdélégués allaient tenter une sorte de putsch au profit de leur adversaire. Mais les sages n'avaient pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout et s'étaient sagement rangés derrière son candidat. Honnêtement, Tad était un homme politique intelligent, solide et sérieux. Il maîtrisait les questions économiques et la politique étrangère. Il était télégénique, il avait de l'humour et du charisme. Malgré ses positions centristes, il avait dans l'opinion une certaine image de fermeté qui faisait qu'on l'imaginait facilement en train de tenir tête à Poutine ou à Xi Jinping. C'était surtout un orateur optimiste et rassembleur. Si Copeland gagnait les présidentielles, et à présent elle était persuadée que ce serait le cas, il la nommerait secrétaire générale de la Maison-Blanche. Le job le plus intéressant du monde. La personne qui gérait vraiment le pays pendant que le président faisait le show devant les caméras. La personne qui s'occupait de tout. Celle qui nouait des alliances au Congrès, qui négociait avec les exécutifs locaux et les agences fédérales. Celle enfin qui gérait la plupart des crises. D'ordinaire, Zora ne laissait jamais rien au hasard. Pourtant, depuis 3 jours, elle avait été prise de court par la résurgence de l'affaire Carlyle. Des heures sombres venues du passé, qui refaisaient surface au plus mauvais moment de la campagne et menaçaient de détruire ce qu'elle avait mis plus de 15 ans à construire. Depuis des années, elle s'était employée à étudier tous les scénarios possibles pour parer à tous les dangers. Le seul qu'elle n'avait pas imaginé, tellement il relevait de l'improbable, était pourtant celui qui s'était concrétisé. Alors que depuis 10 ans, tout le monde la croyait morte, Claire Carlyle avait refait sa vie sous une autre identité. C'était Richard Angeli qui lui avait appris la nouvelle. Lorsqu'il l'avait contactée la semaine précédente, elle avait presque oublié le jeune flic de Bordeaux qu'elle avait elle-même embauché 11 ans plus tôt, à la demande du gouverneur, pour avoir des infos de première main concernant l'enlèvement de sa fille. Depuis le temps, Angeli avait fait du chemin. Dieu sait comment, une information explosive lui était tombée du ciel. Claire Carlyle était vivante. Sans hésitation, elle avait choisi de ne pas évoquer l'affaire avec le candidat. C'était son job. Régler les problèmes lorsqu'ils se présentaient pour qu'ils n'atteignent pas le gouverneur. Elle savait faire ça. Elle aimait ça. Sans en parler à Copland, elle avait débloqué des fonds, une grosse somme, à destination d'Angeli dont la cupidité était sans limite et lui avait ordonné de localiser, d'enlever et de séquestrer la fille. Elle avait longuement hésité à lui demander de la tuer et de faire disparaître son corps, ce qui aurait réglé définitivement le problème. Une seule chose l'avait retenue. La réaction imprévisible de Copland s'il était venu à la prendre. Elle avait donc choisi de se donner quelques jours de réflexion. Mais à présent, elle se dit qu'elle avait trop attendu et qu'il était grand temps de passer à l'acte.